Si l'orchestre m'était compté,
Scheherazade,
d'après les contes des mille et une nuits.
Adaptation, Juliette Eman.
Musique de Nikolaï Rimsky-Korsakov.
Interprétée par l'Orchestre Philharmonique de Radio France, sous la direction d'Adrien Perruchon.
Récitante, Judith Chemla.
On raconte que le sultan des Indes, Shahriar, digne héritier des rois de Perse, persuadé de l'infidélité des femmes, résolut d'en épouser une chaque nuit et de la faire étrangler le lendemain. Or, Scheherazade, la fille du grand vizir, implora son père, qui était malgré lui le ministre d'une si horrible injustice, de la livrer au sultan, avec le dessein d'arrêter le cours de cette barbarie. Mais avant que de partir rejoindre Shahriar pour la nuit, elle prit sa sœur Dinarzade à part et lui dit « Ma chère sœur, mon père va me conduire devant le sultan pour être son épouse. Dès que je serai devant lui, je le supplierai de permettre que vous couchiez dans la chambre nuptiale, afin que je jouisse cette nuit encore de votre compagnie. Si j'obtiens cette grâce, souvenez-vous de m'éveiller demain matin, une heure avant le jour, et de m'adresser à peu près ces paroles. Ma sœur, si vous ne dormez pas, je vous supplie, en attendant le jour qui paraîtra bientôt, de me raconter un de ces beaux contes que vous savez. Aussitôt, je vous en conterai un. Et je me flatte de délivrer par ce moyen tout le peuple de la consternation où il est. » Le stratagème de Scheherazade réussit, et Dinarzade fut introduite pour la nuit dans la chambre nuptiale. Une heure avant le jour, elle s'écria « Ma chère sœur, si vous ne dormez pas, je vous supplie, en attendant le jour qui paraîtra bientôt, de me raconter un de ces contes agréables que vous savez. » Hélas, ce sera peut-être la dernière fois que j'aurai ce plaisir. » Le sultan, ayant accepté que Scheherazade donne satisfaction à sa sœur, la jeune fille commença son récit en s'adressant à Shahriar. « Sire, voici l'histoire de Sindbad le marin, telle qu'il la conta lui-même. » À Bagdad, comme j'étais à la fleur de mon âge, je m'ennuyais de vivre dans le repos. L'envie de voyager m'étourdissait, et réunissant un équipage, je décidai de m'embarquer pour une longue navigation. Nous étions en mer depuis des jours, lorsque nous fûmes battus d'une tempête horrible qui nous fit perdre notre route. Elle continua plusieurs jours et nous poussa devant le port d'une île où le capitaine aurait fort souhaité de se dispenser d'entrer. Mais nous fûmes bien obligés d'y aller mouillés. Lorsqu'on eut plié les voiles, le capitaine nous dit « Cette île est habitée par des sauvages tout velus qui vont venir nous assaillir. Quoi que ce soit des nains, notre malheur veut que nous ne fassions pas la moindre résistance parce qu'ils sont en nombre plus grand que les sauterelles et que s'il nous arrivait d'en tuer un, ils se jetteraient tous sur nous et nous assommeraient. » Nous connûmes bientôt que ce qu'ils venaient de nous dire n'était que trop véritable. Nous vîmes paraître une multitude de sauvages hideux couverts par tout le corps d'un poil roux et haut seulement de 2 pieds. Ils se jetèrent à la nage et environnèrent en peu de temps notre vaisseau. Ils se prirent au bord et au cordage du navire et grimpèrent de tous côtés. Puis, ils déplièrent les voiles, coupèrent le câble de l'ancre sans se donner la peine de la retirer et après avoir fait approcher de terre le vaisseau, ils nous firent tous débarquer. Ils emmenèrent ensuite le navire dans une autre île d'où ils étaient venus. Nous nous éloignâmes du rivage. Nous nous attendions tous à une mort certaine. En marchant, nous aperçûmes assez loin de nous un grand édifice vers lequel nous tournâmes nos pas. C'était un palais bien bâti et fort élevé. Nous entrâmes dans la cour et nous vîmes en face un vaste appartement avec un vestibule où il y avait d'un côté un monceau d'ossements humains et de l'autre une infinité de broches à rôtir. Nous tombâmes par terre saisis d'une frayeur mortelle et nous y demeurâmes longtemps immobiles. Scheherazade, voyant qu'il était jour, avait cessé de parler. Bon Dieu, ma sœur, dit alors Dinarzade, que votre conte est captivant. La suite en est encore plus surprenante, répondit Scheherazade. Et vous en tomberiez d'accord si le sultan voulait me laisser vivre encore aujourd'hui et me donner la permission de vous la raconter la nuit prochaine. Shahriar, qui avait écouté Scheherazade avec plaisir, dit en lui-même « J'attendrai jusqu'à demain. Je la ferai toujours bien mourir quand j'aurai entendu la fin de son conte. » La nuit suivante, une heure avant le jour et à la demande de sa sœur, Scheherazade continua l'histoire commencée la veille. « Sire, voici comment Sinbad le marin poursuivit son récit. » Le soleil se couchait quand soudain, la porte de l'appartement s'ouvrit et aussitôt, nous en vîmes sortir une horrible figure d'homme noir de la hauteur d'un grand palmier. Il avait au milieu du front un seul œil, rouge et ardent comme un charbon allumé. Les dents de devant qu'il avait fort longues et fort aiguës lui sortaient de la bouche et la lèvre inférieure lui descendait sur la poitrine. Ses oreilles ressemblaient à celles d'un éléphant et lui couvraient les épaules. Il avait les ongles crochus et longs comme les griffes des plus grands oiseaux. À la vue d'un géant si effroyable, nous perdîmes tous connaissance et demeurâmes comme morts. À la fin, nous revînmes à nous et nous le vîmes assis sous le vestibule qui nous examinait de tout son œil. Quand il nous eut bien considérés, il s'avança vers nous. Puis il étendit la main sur moi et me prit par la nuque. Il me tourna de tous côtés et après m'avoir bien regardé, voyant que j'étais si maigre que je n'avais que la peau et les os, il me lâcha. Il prit les autres tour à tour, les examina de la même manière. Et comme le capitaine était le plus gras de tout l'équipage, il le tint d'une main et lui passa une broche au travers du corps. Ayant ensuite allumé un grand feu, il le fit rôtir et le mangea à son souper dans l'appartement où il s'était retiré. Ce repas achevé, il se coucha et s'endormit en ronflant d'une manière plus bruyante que le tonnerre. Son sommeil dura jusqu'au lendemain matin. Le jour étant venu, le géant se réveilla, se leva, sortit et nous laissa dans le palais. Lorsque nous le crûmes éloigné, nous rompîmes le triste silence que nous avions gardé toute la nuit et nous fîmes retentir le palais de plaintes et de gémissements. Le géant ne manqua pas de revenir le soir et de souper encore d'un de nos compagnons, après quoi il s'endormit et ronfla jusqu'au jour, puis il sortit et nous laissa comme il avait déjà fait. Notre condition nous parut si affreuse que plusieurs de nos camarades furent sur le point d'aller se précipiter dans la mer plutôt que d'attendre une mort si étrange. Mais un des hommes de la compagnie prit alors la parole. « Il nous est défendu, dit-il, de nous donner nous-mêmes la mort. Et quand cela serait permis, n'est-il pas plus raisonnable que nous songions aux moyens de nous défaire de ce barbare ?» Comme il m'était venu dans l'esprit un projet sur cela, je le communiquai à mes camarades qui l'approuvèrent. Puis je leur dis « Mes frères, vous savez qu'il y a beaucoup de bois le long de la mer. Construisons plusieurs radeaux qui puissent nous porter, et dès qu'ils seront achevés, nous les laisserons sur la côte jusqu'à ce que nous jugions à propos de nous en servir. Cependant, nous exécuterons le dessein que je vous ai proposé pour nous délivrer du géant. Et si nous manquons notre coup, nous gagnerons promptement nos radeaux et nous nous mettrons en mer. » Mon avis fut goûté de tout le monde, et nous construisîmes des radeaux capables de porter 3 personnes. Nous retournâmes au palais vers la fin du jour, et le géant y arriva peu de temps après nous. Il fallut encore nous résoudre à voir rôtir un de nos camarades. Après qu'il eut achevé son détestable souper, le géant se coucha sur le dos et s'endormit en ronflant. Alors, 9 des plus hardis d'entre nous et moi, nous prîmes chacun une broche, nous en mîmes la pointe dans le feu pour la faire rougir, et ensuite, nous la lui enfonçâmes dans l'œil en même temps et nous le lui crevâmes. La douleur que sentit le géant lui fit pousser un cri effroyable. Il se leva brusquement et étendit les mains de tous côtés pour se saisir de l'un d'entre nous afin de le sacrifier à sa rage. Mais nous eûmes le temps de nous éloigner de lui et de nous jeter contre terre dans des endroits où il ne pouvait nous rencontrer sous ses pieds. Après nous avoir cherchés vainement, il trouva la porte à tâtons et sortit avec des hurlements épouvantables. Nous quittâmes le palais après le géant et nous nous rendîmes au bord de la mer, dans l'endroit où étaient nos radeaux. À peine fut-il jour que nous aperçûmes notre cruel ennemi, accompagné d'un grand nombre de géants qui marchaient devant lui à pas précipiter. À cet objet, nous ne balançâmes point à nous jeter sur nos radeaux et nous commençâmes à nous éloigner du rivage à force de rames. Les géants se munirent de grosses pierres et nous les jetèrent si adroitement qu'à l'exception du radeau sur lequel j'étais, tous les autres en furent brisés et les hommes qui étaient dessus se noyèrent. Pour moi et mes deux compagnons, comme nous ramions de toutes nos forces, nous nous trouvâmes les plus avancés dans la mer et hors de la portée des pierres. Quand nous fûmes en pleine mer, nous devînmes le jouet du vent et des flots qui nous jetaient tantôt d'un côté, tantôt d'un autre. Et nous passâmes ce jour-là et la nuit suivante dans une cruelle incertitude de notre destinée. Mais le lendemain, nous eûmes le bonheur d'être poussés contre une île où nous nous sauvâmes avec bien de la joie. Et de là, peu de temps après, nous fûmes recueillis miraculeusement par un navire. C'est ainsi que je la vis sauve. À ces mots, Scheherazade se tut, car le jour venait à paraître. Le sultan se leva, fort en peine de connaître la suite de l'histoire. Thank you. La nuit suivante, Scheherazade, à la demande de sa sœur, reprit la parole en ces termes. « Sire, voici à présent le récit du prince Calender, tel qu'il le conta un jour à Zobeïde, une dame qui l'avait accueillie chez elle une nuit à Bagdad, et qui s'enquérait de savoir pourquoi il était borgne d'un œil, avait les sourcils et la barbe rasées, et portait un habit de religieux mendiant. Madame, je vous dirai que je suis né fils de roi. Le roi, mon père, avait un frère qui régnait comme lui dans un état voisin. Ce frère eut deux enfants, un prince et une princesse. Et le prince et moi, nous étions à peu près du même âge. J'allais régulièrement voir le roi, mon oncle, et je demeurais à sa cour un mois ou deux. Après quoi, je me rendais auprès du roi, mon père. Ces voyages nous donnèrent occasion, au prince, mon cousin et à moi, de contracter ensemble une amitié très forte. La dernière fois que je le vis, il me reçut avec de plus grandes démonstrations de tendresse qu'il n'avait faites encore. Un jour qu'il m'eut régalé et que nous eûmes bien soupé tous deux, il me dit « Mon cousin, vous ne devineriez jamais à quoi je me suis occupée depuis votre dernier voyage. Il y a un an qu'après votre départ et pour un dessein que je médite, j'ai fait faire un édifice qui est achevé et on y peut loger présentement. Vous ne serez pas fâché de le voir, mais il faut auparavant que vous me fassiez serment de me garder la fidélité et le secret. » L'amitié qui était entre nous, ne me permettant pas de lui rien refuser, je fis sans hésiter un serment tel qu'il le souhaitait. Alors il me dit « Attendez-moi ici, je suis à vous dans un moment. » « Mon cousin, dit le prince à Zobeïde, ne tarda pas à revenir, et je le vis entrer avec une dame d'une beauté singulière et magnifiquement habillée. Il ne me dit pas qui elle était, et je ne crus pas devoir m'en informer. » « Nous n'avons pas de temps à perdre, me dit-il. Faites-moi l'obligeance d'emmener avec vous cette dame et de la conduire d'un tel côté, à un endroit où vous verrez un tombeau nouvellement bâti. Vous le connaîtrez aisément. La porte est ouverte. Entrez-y ensemble et attendez-moi. Je m'y rendrai bientôt. » Fidèle à mon serment, je n'en voulus pas savoir davantage et au moyen des renseignements que mon cousin m'avait donnés, je conduisis la dame, heureusement, au clair de la lune, sans m'égarer. » À peine fûmes-nous arrivés au tombeau, que nous vîmes paraître le prince qui nous suivait, chargé d'une petite cruche pleine d'eau, d'une pioche et d'un petit sac où il y avait du plâtre. La pioche lui servit à démolir le sépulcre vide qui était au milieu du tombeau. Il ôta les pierres l'une après l'autre et les rangea dans un coin. Puis il creusa la terre et je vis une trappe qui était sous le sépulcre. Il la leva et au-dessous, j'aperçus le haut d'un escalier en limaçon. Alors mon cousin, s'adressant à la dame, lui dit « Madame, voilà par où l'on se rend au lieu dont je vous ai parlé. » La dame à ces mots s'approcha et descendit. Et le prince se mit en devoir de la suivre, mais se retournant auparavant de mon côté, « Mon cousin, me dit-il, je vous suis infiniment obligé de la peine que vous avez prise. Je vous en remercie. Adieu. » « Mon cher cousin, m'écriai-je, qu'est-ce que cela signifie ? Que cela vous suffise ? Me répondit-il. « Vous pouvez reprendre le chemin par où vous êtes venu. » Je ne pus tirer autre chose du prince, et je fus obligée de prendre congé de lui et de m'en retourner au palais de mon oncle. Le lendemain, à mon réveil, faisant réflexion sur ce qui m'était arrivé la nuit, il me sembla que c'était un songe. Prévenu de cette pensée, j'envoyai savoir si le prince, mon cousin, était en état d'être vu. Mais lorsqu'on me rapporta qu'il n'avait pas couché chez lui, qu'on ne savait pas ce qu'il était devenu et qu'on en était fort en peine, je jugeai bien que l'étrange événement du tombeau n'était que trop véritable, et j'en fus vivement affligée. Il faut savoir que pendant ce temps-là, le roi, mon oncle, était absent. Je m'ennuyais de l'attendre, et après avoir prié ses ministres de lui faire mes excuses à son retour, je partis de son palais pour me rendre à la cour de mon père, dont je n'avais pas coutume d'être éloignée si longtemps. J'arrivai à la capitale où mon père faisait sa résidence. Et contre l'ordinaire, Je trouvai à la porte de son palais une grosse garde dont je fus environnée en entrant. J'en demandai la raison, et l'officier prenant la parole me répondit « Prince, l'armée a reconnu le grand vizir à la place du roi votre père qui n'est plus, et je vous arrête prisonnier de la part du nouveau roi. » À ces mots, les gardes se saisirent de moi et me conduisirent devant le tyran. Ce rebelle vizir avait conçu pour moi une forte haine qu'il nourrissait depuis longtemps. En voici le sujet. Dans ma plus tendre jeunesse, j'aimais à tirer de l'arbalète. J'en tenais une un jour au haut du palais, sur la terrasse. Je me divertissais à en tirer. Il se présenta un oiseau devant moi. Je le visais, mais le manquais. Et la flèche, par hasard, alla donner droit contre l'œil du vizir qui prenait l'air sur la terrasse de sa maison et le creva. Lorsque j'appris ce malheur, j'en fis faire des excuses au vizir, mais il en conserva un vif ressentiment qu'il fit éclater d'une manière barbare quand il me vit en son pouvoir. Il vint à moi comme un furieux aussitôt qu'il m'aperçut, et enfonçant ses doigts dans mon œil droit, il l'arracha lui-même. Puis il me fit enfermer dans une caisse et ordonna au bourreau de me porter en cet état fort loin du palais et de m'abandonner aux oiseaux de proie après m'avoir tranché la tête. Le bourreau monta à cheval, chargé de la caisse, et s'arrêta dans la campagne pour exécuter son ordre. Mais je fis si bien par mes prières et par mes larmes que j'excitai sa compassion. « Allez, me dit-il, sortez promptement du royaume et gardez-vous bien d'y revenir, car vous y rencontreriez votre perte et vous seriez cause de la mienne. » Je le remerciai de la grâce qu'il me faisait, et je ne fus pas plutôt seule que je me consolai d'avoir perdu mon œil, en songeant que j'avais évité un plus grand malheur. Dans l'état où j'étais, après des jours et des nuits de marche, j'arrivai enfin dans les états du roi mon oncle et je me rendis à sa capitale. Je lui fis un long détail de la cause tragique de mon retour et du triste état où il me voyait. « Hélas, s'écria-t-il, n'était-ce pas assez d'avoir perdu mon fils ? Fallait-il que j'apprisse encore la mort d'un frère qui m'était cher et que je vous visse dans le déplorable état où vous êtes réduit ? Il me marqua l'inquiétude où il était de n'avoir reçu aucune nouvelle du prince, son fils. Ce malheureux père me parut tellement affligé que je ne pus résister à sa douleur et je lui racontai tout ce que je savais. Le roi m'écouta, et quand j'eus achevé, « Mon neveu, me dit-il, le récit que vous venez de me faire me donne quelque espérance. J'ai su que mon fils faisait bâtir ce tombeau et je sais à peu près en quel endroit. Avec l'idée qui vous en est restée, je me flatte que nous le trouverons. Mais puisqu'il l'a fait faire secrètement et qu'il a exigé de vous le secret, je suis d'avis que nous l'allions chercher tous deux, seuls, pour éviter l'éclat. » Il avait une autre raison qu'il ne me disait pas d'en vouloir dérober la connaissance à tout le monde. Thank you. Mais Scheherazade, n'en dis pas davantage cette nuit, le jour venant à paraître. Le sultan se leva sans rien dire. La bonne sultane, dit-il en lui-même, raconte de fort longues histoires. Et une fois qu'elle en a commencé une, il n'y a pas moyen de refuser de l'entendre tout entière. Ne précipitons donc pas sa mort. Je ne veux pas me priver du plaisir d'entendre la suite de ce récit si divertissant. La nuit arrivant, Shahriar ayant témoigné à Scheherazade qu'elle lui ferait plaisir de continuer le conte du prince Calender, elle en reprit le fil en ces termes. Le roi, mon oncle et moi nous déguisâmes l'un et l'autre, poursuivit le prince, et nous sortîmes par une porte du jardin qui ouvrait sur la campagne. Bientôt, je reconnus le tombeau. Nous y entrâmes et trouvâmes la trappe de fer abattue sur l'entrée de l'escalier. Nous réussîmes à la lever. Quand nous fûmes au bas de l'escalier, nous nous trouvâmes dans une espèce d'antichambre. De cette antichambre, nous passâmes dans une chambre fort grande, éclairée de plusieurs lustres. Il y avait là un lit fort large dont les rideaux étaient fermés. Le roi, les ayant ouverts, aperçut le prince, son fils et la dame, couchés ensemble, mais brûlés, échangés en charbon, comme si on les eût jetés dans un grand feu et qu'on les en eût retirés avant que d'être consumés. Ce qui me surprit plus que toute autre chose, c'est qu'à ce spectacle qui faisait horreur, mon oncle, au lieu de témoigner de l'affliction en voyant son fils dans un état si affreux, lui cracha au visage, en lui disant d'un air indigné « Voilà quel est le châtiment de ce monde, mais celui de l'autre durera éternellement !» Il ne se contenta pas d'avoir prononcé ces paroles. Il se déchaussa et donna sur la joue de son fils un grand coup de sa pantoufle. « Sire, dis-je à mon oncle, quel crime peut avoir commis mon cousin pour mériter que vous traitiez ainsi son cadavre ?» Mon neveu, me répondit le roi, « Je vous dirai que mon fils... indigne de porter ce nom, aima sa sœur dès ses premières années, et que sa sœur l'aima de même. Je ne m'opposais point à leur amitié naissante, parce que je ne prévoyais pas le mal qui en pourrait arriver. Mais cette tendresse augmenta avec l'âge. J'y apportai alors le remède qui était en mon pouvoir. Je ne me contentais pas de prendre mon fils à part et de lui faire une forte réprimande en lui présentant l'horreur de la passion dans laquelle il s'engageait. Je représentais les mêmes choses à ma fille et je la renfermais, de sorte qu'elle n'eut plus de communication avec son frère. Mon fils, sous prétexte de se faire bâtir un tombeau, fit préparer cette demeure souterraine, dans l'espérance de trouver un jour l'occasion d'enlever le coupable objet de sa flamme et de l'amener ici. Il a choisi le temps de mon absence pour forcer la retraite où était sa sœur. Et il s'est venu renfermer avec elle dans ce lieu, afin d'y pouvoir jouir longtemps de ses détestables amours. Mais Dieu n'a pas voulu souffrir cette abomination et les a justement châtiés l'un et l'autre. Il fondit en pleurs en achevant ses paroles, et je mêlai mes larmes avec les siennes. Nous remontâmes par le même escalier, et sortîmes enfin de ce lieu funeste. Il n'y avait pas longtemps que nous étions de retour au palais, lorsque nous entendîmes un bruit confus de trompettes, de tambours et d'autres instruments de guerre. Une poussière épaisse nous annonça bientôt l'arrivée d'une armée formidable. C'était le même vizir qui avait détrôné mon père et usurpé ses états, qui venait pour s'emparer aussi de ceux de mon oncle avec des troupes innombrables. Ce dernier ne put résister à tant d'ennemis. Ils investirent la ville et pénétrèrent jusqu'au palais de mon oncle qui fut tué. De mon côté, j'eus le bonheur de me sauver par des détours et de me rendre chez un officier du roi dont la fidélité m'était connue. Accablé de douleur, persécuté par la fortune, j'eus recours à un stratagème pour me conserver la vie. Je me fis raser la barbe et les sourcils. Ayant pris l'habit de Calender, je sortis de la ville, sans que personne ne me reconnût. Enfin, après un voyage de plusieurs mois, je suis arrivée aujourd'hui à la porte de cette ville, et ma bonne fortune m'ayant conduit devant chez vous, j'ai pris la liberté de frapper. Voilà, madame, ce que vous m'avez demandé de vous raconter. Mais le jour commençait à paraître, et Scheherazade se tut. Le sultan se leva, et curieux d'entendre une autre histoire, résolu de laisser vivre encore Scheherazade jusqu'à la nuit suivante.
Thank you.
Le sultan Shahriar ne pouvait s'empêcher d'admirer la mémoire prodigieuse de son épouse Scheherazade, qui lui fournissait toutes les nuits de nouveaux divertissements par tant d'histoires différentes. Une nuit s'était écoulée et l'esprit du sultan s'était adouci. Il était convaincu de la grande sagesse de Scheherazade. Il se souvenait du courage avec lequel elle s'était exposée volontairement à devenir son épouse sans appréhender la mort. « Je vois bien, lui dit-il, aimable Scheherazade, que vous êtes inépuisable dans vos petits contes. » Vous avez apaisé ma colère et je renonce volontiers en votre faveur à la loi cruelle que je m'étais imposée. Je vous remets entièrement dans mes bonnes grâces et je veux que vous soyez regardée comme la libératrice de toutes les filles qui devaient être immolées à mon injuste ressentiment. La nouvelle se répandit bientôt dans la ville de Bagdad et dans les provinces, ce qui attira au sultan et à Scheherazade, son épouse, 1000 louanges et 1000 bénédictions de tous les peuples de l'Empire des Indes.
C'était « Si l'orchestre m'était compté »
chez Scheherazade,
d'après les contes des Mille et Une Nuits.
Adaptation Juliette Eman, traduction Antoine Galland.
Musique de Nikolaï Rimsky-Korsakov.
Interprété par l'Orchestre Philharmonique de Radio France sous la direction d'Adrien Perruchon.
Récitante Judith Chemla.
Ce concert a été enregistré en public les 12, 13 et 14 mars 2015 à l'Auditorium de Radio France.
Équipe de réalisation,
Catherine Déréthé,
Stéphane Touvenin,
Elsa Biston,
Cyrielle Weber,
Patrick Muller,
Ludovic Auger,
Manu Couturier,
Félix Levacher,
Sophie Haute-Picon,
Marguerite Gâteau.
Responsable du programme pédagogique de l'orchestre, Cécile Kaufmann.
Conseillère littéraire, Caroline Oisana.
Une coproduction du service des fictions de France Culture et de l'Orchestre Philharmonique de Radio France.